Je vais essayer de vous tracer les axes principaux du questionnement donc autour du travail collectif et du développement professionnel des enseignants. Deux choses qui sont au cœur des Léa. Développement professionnel des enseignants à travers le travail collectif, organisation d'un travail collectif pour permettre le développement professionnel des enseignants. J'aborderai donc trois parties. Je définirai quand même ce qu'on entend par travail collectif et développement professionnel, parce que ces mots sont relativement englobants, hein, et ça vaut la peine de préciser quel sera le point de vue à partir duquel est-ce qu'on va travailler. Ensuite, j'indiquerai un cadre conceptuel qui permet de comprendre l'activité professionnelle, car on est obligé de s'intéresser à l'activité professionnelle, et notamment à l'activité professionnelle des enseignants, si on veut parler de développement professionnel, et si on veut structurer le collectif de travail. Et puis, je terminerai par des résultats de recherche sur collectif et développement professionnel, de manière à ce que l'on puisse voir ensemble un petit peu envisager vers quoi peuvent nous emmener ces Léa et sur quoi compter quand on met en place des Léa. Voilà. Donc je commence par définir le travail collectif, puis le développement professionnel. Pour définir ce travail collectif, je vais m'appuyer sur le cadre théorique, hein, qui est le mien, qui est à la fois celui de la didactique professionnelle, que l'on connaît bien en France à travers quelqu'un comme Pierre Pastret ou Gérard Vergniaud ou Janine Rogalski, par exemple, hein, ces trois collègues avec lesquels on a souvent échangé autour de ces cadres théoriques de la didactique professionnelle, et puis autour plus largement d'une base, d'une référence de la didactique professionnelle qui est la psychologie ergonomique, et que l'on va retrouver dans mon exposé, surtout à travers la théorie de l'activité développée par Engström, qui présente l'avantage, contrairement à la didactique professionnelle, qui est souvent francophone, hein, d'avoir un impact international et une compréhension internationale des concepts et des modèles, ce qui est important pour nous, hein, de viser aussi au-delà de nos frontières. Dans ce cadre-là, le travail collectif, et c'est le premier point qui est extrêmement important, ne doit pas se confondre avec le travail en équipe. Ça n'implique pas nécessairement une équipe, un groupe identifié, dont la personne à laquelle les personnes se sentiraient impliquées. Ça n'implique pas forcément une communication en face à face ou même une régularité. Le travail collectif, dans le sens où on l'entend, c'est plutôt l'existence d'une mission, d'un projet commun, la nécessité de partager des connaissances ou des ressources. Et là, on est bien dans le cadre du Léa et des établissements, hein, où finalement, on a envie ensemble de faire quelque chose. Forcément que j'imagine qu'on se sent, c'est un peu exceptionnel le Léa, donc on se sent partie prenante d'une équipe, hein, mais ce n'est pas obligatoire dans la vie d'un établissement que de se sentir membre à part entière d'une équipe ou d'un groupe. N'empêche qu'on est dans un travail collectif parce qu'on a un projet commun. Ce travail collectif va souvent traverser les frontières des spécialités. C'est ce qu'on observe dans de nombreux métiers. C'est ce qu'on observe dans l'enseignement. C'est ce qu'on va observer dans les dispositifs qui nous intéressent ici. Et ce travail collectif va, la plupart du temps, dans la plupart des métiers et dans l'enseignement aussi, comporter des partenariats avec l'extérieur. On en a déjà parlé depuis ce matin. Luc Trouche en a parlé dans son introduction. Ce qu'on remarque et qui peut nous intéresser ici, c'est que les relations entre acteurs se construisent la plupart du temps dans l'action. Mais que celles-ci peuvent parfois être établies explicitement. Et on a vu hier, justement, au cours du comité scientifique, qu'il était vraisemblablement important de construire au préalable un certain nombre de règles d'interaction entre les différents acteurs. Une règle à laquelle on ne pense pas nécessairement tout de suite, qui a émergé hier dans notre discussion, était celle de savoir comment est-ce qu'on produit des résultats. Au bout d'un moment, on va avoir des résultats. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les produit? Et on peut se mettre d'accord au départ. C'est une manière de réguler le groupe que d'établir cette règle au démarrage. Mais rassurons-nous, donc, souvent, ces règles se construisent dans l'action. Dans la plupart des métiers, c'est ce qu'on observe. Ce travail collectif peut comporter plusieurs modalités. Il y en a deux qui nous concernent tout particulièrement. C'est la coopération et la coaction. La coopération, qu'on remarque, encore une fois, dans plusieurs métiers, je suis là dans un cadre très général qui ne concerne pas uniquement l'enseignement, je le répète, consiste en des situations où, pour réussir la mission, pour atteindre les objectifs du projet commun, on a besoin de plusieurs métiers. De plusieurs métiers qui se répartissent des tâches différentes. On est bien dans ce cadre-là. Au niveau des Léas, on a un but commun, on a plusieurs métiers, et on avance vers ce but commun en ayant des tâches qui sont différentes. L'enjeu qu'on remarque dans les recherches à propos de ces situations-là, c'est que chacun comprenne bien quel est son rôle dans le processus du travail global. On a un processus global, on a chacun un rôle, chacun des compétences que l'on apporte pour avancer. De manière à ce que chacun puisse se sentir responsable, ou au moins en partie responsable, de l'action collective. Et il est extrêmement important, dès le départ, de pointer comment chacun peut se sentir responsable de ce groupe, de ce collectif qui avance vers le projet commun. Pour les personnes, il s'agit d'avoir de conduire des activités qui sont congruentes entre elles, qui s'ajustent bien, qui restent différentes. On en a également parlé hier au Conseil scientifique. On met en place une coopération horizontale, en quelque sorte, entre des chercheurs, des formateurs, des enseignants, du personnel de pilotage. Le danger serait qu'on confonde les rôles de chacun. Et vraisemblablement, le collectif n'arriverait pas à atteindre les missions qu'il s'est fixées. Si, à l'inverse, chacun ne garde pas en tête qu'il a apporté ses compétences sans les confondre avec celles des métiers, avec celles des acteurs, des partenaires du projet. Deuxième modalité qui est la nôtre aussi, c'est la coaction, c'est-à-dire lorsqu'on partage un même espace de travail, qu'il soit physique ou qu'il soit virtuel. Il y a beaucoup d'espaces de travail partagés dans les Léas, ne serait-ce que quand on se trouve en réunion et qu'on cherche ensemble à produire ce qui a été appelé des outils tout à l'heure. Là, il y a un enjeu qui est de contrôler les effets de sa propre action sur celle d'autrui. On sait que dans ces espaces de travail partagés, il y a les gros poissons, comme on dit, qui peuvent imposer leur point de vue, qui peuvent empêcher d'autres personnes qui ont des idées tout à fait intéressantes de s'exprimer. Ou à l'inverse, il y a ceux dont on sait qu'ils ne vont jamais s'exprimer. Donc ce n'est pas la peine de leur laisser trop de temps, avançant avec les autres. Alors qu'on est dans un espace commun, donc l'idée pour les personnes, c'est d'agir de manière pertinente, en fonction de ce qui doit être fait, c'est-à-dire ce qui doit être dit. Si on a des compétences à produire, il faut les produire, mais en restant respectueuse d'autrui. Et on a ça dans de nombreux métiers. Dans de nombreux métiers, on n'a pas le temps ici de développer quels sont ces métiers. On pourra le voir au niveau des débats. Je crois que dans nos Léas, c'est extrêmement important, et je crois que dans les règles à poser au départ ou en cours de route pour gérer l'action des Léas, le fait de se donner des règles de respect d'autrui, tout en portant son propre point de vue, sont des règles importantes. Deuxième point, le développement professionnel. Comment le définir? Quelles sont ses modalités? Toujours dans le même cadre d'analyse, le développement professionnel, on peut dire que les compétences ne s'acquièrent pas par paquet. Elles ne sont pas là de manière définitive. C'est plutôt des réorganisations successives, des manières de penser et d'agir en rapport avec la situation, mais c'est bien en rapport avec la situation de travail. Ce qui fait qu'on va avoir des sauts majorants, la personne se sent plus compétente, on va avoir des retours en arrière quand la situation devient plus difficile, et puis des espèces de stagnation. Et en général, on va estimer que le développement professionnel, donc le développement des compétences professionnelles, c'est dans ce sens-là que j'entends développement professionnel, va plutôt être une succession de paliers sur un continuum. Mais ce développement, il est bien clair qu'il est fait d'aller et retour de positionnement sur un continuum. Hein ? C'est pas quelque chose de continu vers le haut, ni quelque chose de définitif. En général, on a quatre paliers dans les recherches. Le novice, qui cherche à identifier des indices dans la situation et à agir de manière pertinente dans l'enseignement. Les élèves sont très impliqués dans la tâche, mais ils sont en train d'y passer peut-être un petit peu trop de temps. Comment est-ce que je peux faire ? Et il faut savoir identifier ça. Le débutant avancé, qui va essayer de donner du sens à des situations globales où ils sont très intéressés. Je les laisse un petit peu parce que la séance prochaine, j'ai un petit peu plus de temps. Donc voilà. Le praticien compétent qui catégorise les situations. D'accord, je suis dans une situation en début de... J'introduis un chapitre ou je termine un chapitre. C'est pas tout à fait... la même situation, mais ça se ressemble un petit peu et je peux agir de la même manière, de manière à donner de la cohérence à mon enseignement. Et puis l'expert qui va lui anticiper, et dans le cadre du collectif, je suis enseignant d'une discipline, il y a des enseignants d'une autre discipline, mais finalement on est proche, on avance vers le même but. Hein, on est sur ces quatre niveaux-là. Je représenterai ces quatre niveaux tout à l'heure dans un modèle que je présenterai ultérieurement. Ce qu'il faut retenir, c'est que qu'est-ce que c'est que l'expertise dans ce cadre-là ? C'est pas toujours se situer à l'optimum. C'est faire des choix pour avoir une action qui soit convenable. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui a été reconnu dans de nombreux métiers, qu'on a un peu de mal à implanter dans l'enseignement, parce que toujours, on essaye, quel que soit notre niveau d'enseignement, d'être à l'optimum. Mais face aux tâches complexes qui sont demandées aux enseignants d'aujourd'hui et qui sont demandées dans de nombreux métiers, on s'aperçoit que l'expertise, c'est savoir réduire ses exigences sur certaines dimensions de la situation pour les pousser au maximum à un autre, quitte à changer de choix dans le temps, de manière à couvrir toutes les dimensions sans en oublier aucune, mais sans s'épuiser à être toujours au maximum et sans épuiser nos usagers ou les élèves, en étant toujours au maximum. Voilà ce qu'on apprend du travail collectif et du développement professionnel dans le cadre théorique dont je vous ai parlé. Alors, après, comment conduire des recherches et comment conduire des recherches qui puissent être utiles aux professionnels de terrain, donc ici aux enseignants, de manière à ce qu'ils puissent utiliser le collectif et qu'ils puissent se développer professionnellement et qu'on puisse reconnaître ce développement professionnel. Là, je vais vous présenter rapidement la théorie de l'activité que vous devez connaître, j'imagine. À chaque fois, en tout cas, vous avez vu tout à l'heure, en bas de la diapo, vous avez des références que vous pouvez retrouver et de manière à parfaire vos connaissances. On s'aperçoit dans cette théorie de l'activité, du moins on se dit que l'acteur, il agit, donc il a des objets, des élèves ou des contenus, en fonction de buts, et puis qui cherche à avoir des effets, donc des apprentissages dans notre cas. On s'aperçoit que si on en reste à cette étude-là, on est à l'écume des phénomènes. Et on ne peut pas comprendre quel est le développement professionnel des personnes, et on ne peut pas agir sur ce développement professionnel. On n'a qu'à laisser faire et constater quels sont les effets de la pratique, de l'action, de l'activité de cet acteur. Donc, on va essayer d'étudier le contexte dans lequel cette personne s'inscrit et puis les relations qu'elle entretient avec ce contexte. Et c'est cette étude-là qui va nous permettre d'avancer ou de jouer sur ce contexte pour avancer vers un développement professionnel. Premier élément qui semble essentiel dans ce contexte, ce sont les ressources dont dispose la personne. Les mots dont elle dispose pour parler de son activité, mais aussi les documents dont elle dispose pour améliorer, pour construire son activité. C'est tout le travail sur les ressources documentaires, le travail documentaire de l'enseignant, construit par Luc Trouche ou Ghislaine Guedet, par exemple. Cette activité dépend aussi du répertoire d'actions disponibles à cette personne. Je pense que dans les LEA, vous avez déjà constaté cet élément-là, c'est-à-dire que en échangeant, en ayant accès à d'autres ressources, finalement, il y a un répertoire d'actions qui s'agrandit et la personne peut faire des choix de plus en plus larges entre différents types d'actions possibles. Donc il faut être attentif à quel est ce répertoire d'actions. Cela dépend quand même de la culture de la communauté. Est-ce que dans la communauté, on a l'habitude de partager, d'échanger, d'essayer, de tester, de s'évaluer ou non? Et puis ça dépend de l'organisation du travail. On a parlé du pilotage des établissements tout à l'heure. Donc vous connaissez bien ce problème, je vais très rapidement. Voilà la théorie de l'activité et les différents éléments que l'on peut explorer, sur lesquels on peut jouer pour améliorer cette ligne rouge-là des effets de l'activité des personnes. Comment conduire des recherches sur ces questions-là? Alors, je reprends le modèle et puis quelques éléments que j'utilise personnellement, on s'en servira tout à l'heure, pour déterminer quels sont, alors, j'ai appelé ça, moi, les savoirs processus enseignants. Il faut se référer à mes écrits. Il y a un ouvrage récent qu'on a coordonné à plusieurs sur cette question-là, publié à l'ENS, que vous trouverez, j'ai vu sur la table en sortant, là, qui peut développer. Je m'excuse, on est obligé de faire très très vite. Mais simplement, quatre composants qui peuvent être appropriés par vous dans les LEA assez rapidement. Cherchez quels sont les buts que se donne la personne, seule ou en équipe, pour faire face à la situation. Où est-ce qu'on va ensemble? Quels sont les indices que l'on repère, que repère l'acteur, que repère le groupe dans la situation, qui a une valeur informative, qui permet de poser un diagnostic sur l'évolution du processus en cours, sur l'évolution de la séance de classe, sur l'évolution de la séquence, et de se dire, il faut faire plutôt comme ci, il faut faire plutôt comme ça. Du coup, quelle est l'action qui a été choisie ? Déclenché par le but et par l'indice, et quelles sont les connaissances professionnelles de référence qui justifient cette action? Est-ce que c'est simplement « on a toujours fait comme ça » Est-ce que c'est dans les programmes? Est-ce que c'est tel article que j'ai lu sur la didactique de ma discipline ou sur des processus transversaux comme la motivation qui justifie ce type d'action? Et avec ces quatre éléments-là, on peut qualifier l'activité professionnelle, la manière de penser son activité des personnes. On peut répertorier ça assez facilement et situer ces personnes, leur permettre de se situer elles-mêmes, parce qu'il y a une part d'auto-évaluation qui est extrêmement importante, sur les continuums dont je parlais tout à l'heure, avec les quatre niveaux dont je parlais tout à l'heure. C'est un individu. Mais on a parlé d'un collectif. Donc on a plusieurs systèmes. Vous voyez que c'est exactement le même. Les acteurs, les objets, les ressources, répertoire d'action, etc. Je ne dessine, nous ne schématisons en général que deux individus. On peut en mettre plusieurs, mais après ça devient compliqué sur la diapositive ou dans les articles. On voit qu'ils partagent vraisemblablement les mêmes ressources. On voit qu'ils font partie de la même communauté. Mais n'empêche qu'ils ont des objets différents. On n'a pas besoin... Enfin, vous connaissez les... problème, par exemple, d'hypothèse. Il y a une recherche qui a été conduite ici. On en parle dans certains de nos articles, des chapitres que l'on a dans nos livres en commun. Voilà la notion d'hypothèse. Quand on est en bleu, professeur de SPC, quand on est en jaune, professeur de SVT ou prof de maths, c'est pas pareil. Si on veut travailler, il faut dépasser ce point de vue plutôt individuel pour commencer à catégoriser. Oui, c'est peut-être pas hypothèse, conjecture, c'est... Tu sais, quand les élèves, quand tu leur permets de faire un petit peu des anticipations. Et puis finalement, peut-être, arriver à se mettre d'accord sur un objet commun. Et donc, en recherche, moi, ce que je propose très rapidement, c'est d'arriver à voir comment est-ce qu'on peut comprendre la manière dont les individus se connectent leurs activités, leur conceptualisation au sein des collectifs, des réseaux, des LEA dans lesquels nous sommes impliqués. Comment est-ce que l'on s'y prend ensemble pour connecter ces conceptualisations? Et puis, bien évidemment, identifier les effets de cette inscription dans des collectifs, de ces constructions de conceptualisation commune sur les objets, sur les buts du collectif et donc ici sur les apprentissages des élèves. Alors, on a quelques résultats qui sont intéressants. Je terminerai extrêmement rapidement. Développement professionnel, on ne regarde que l'âge. Qu'est-ce qu'on remarque ? Un développement, dans tous les métiers, c'est souvent comme ça, quand on s'intéresse aux compétences qui sont, on va dire, dans les activités collectives. Donc, la personne a une mission, mais elle a une mission dans un collectif. Comment est-ce qu'elle tient compte des deux ? Souvent, le développement, selon l'âge, est une courbe en cloche. On a, après 45 ans, vous le voyez dans les établissements aussi, hein, mais vous le voyez dans vos collectifs, souvent un repli hein, vers ce qui fait le cœur du métier, en se disant « j'ai déjà bien donné ». Il y a trop de changements, je ne peux plus. Mais ce n'est pas très intéressant parce qu'on perd, le collectif perd beaucoup de compétences à travers l'expérience de ces personnes. Et puis les jeunes, donc, avant 35 ans, eh ben, qui se débrouillent, hein, qui essayent de faire face pour prendre en compte à la fois le cœur du métier et puis l'ouverture vers des variabilités. Alors, à travers tous les petits leviers que j'ai cités jusqu'à présent, qu'est-ce que l'on peut faire ? Alors, on va observer les effets. C'est une recherche qu'on a menée donc, dans l'agglomération de Grenoble. Il y a un ouvrage, il y a un article, et puis il y a un ouvrage sur cette question-là. Donc, je vous invite à les lire un peu plus profondément, si ça vous intéresse. À partir de 96 entretiens hein, avec des enseignants de 6e, 5e, et puis cycle 3 en école primaire. Si ces personnes sont inscrites dans un collectif, alors on a un développement professionnel tout autre qui n'a plus rien à voir avec l'âge. C'est-à-dire que les débutants deviennent experts très rapidement. On les voit parfois dans la première année, s'ils sont inscrits dans une équipe qui les prend en charge. Et les plus de 45 ans, fort heureusement, restent au top. Et on en connaît plein comme ça, qui sont impliqués jusqu'à la veille de leur retraite. Hein ? Voilà. À condition qu'il y ait un collectif, un projet commun, des habitudes d'échange. Hein ? Si on regarde donc ce qu'on a appelé ordinaire, c'est des enseignants qui ne sont pas volontairement isolés. Hein. C'est des enseignants qui, pour une raison ou pour une autre, ils peuvent être entre deux établissements et ils ne peuvent pas s'impliquer dans un réseau. Hein. On n'a pas pris dans notre échantillon de gens qui ne voulaient pas entendre parler des autres. Hein. On n'en a pas trouvé, d'ailleurs. Les participants sont ceux qui sont là, mais qui ne peuvent pas prendre la responsabilité d'un petit collectif hein, et qui ne sont pas vraiment impliqués, mais qui suivent. Et puis les responsables sont ceux qui sont impliqués dans des projets, ceux que l'on connaît. Et les compétences mesurées avec notre méthode hein, sont beaucoup plus élevées. Autre système plus actuel, on a la même chose. C'est à propos de ce modèle en continuum et en dimension, 6 dimensions, vous voyez, autour des démarches d'investigation. 4 niveaux, 1, 2, 3, 4. Le 1 et le 2, c'est les premiers niveaux du développement, c'est plutôt centré sur les contenus d'enseignement et sur la personne seule dans sa classe. Les niveaux 3 et 4 sont des niveaux ouverts vers les processus d'apprentissage des élèves. Certes, le programme compte, mais ce qui compte, c'est faire apprendre, permettre d'apprendre. 3 groupes d'enseignants, des débutants qui sont formés dans un travail collectif, c'est des gens de l'UFM, c'est la courbe orange. On voit qu'ils ont une position médiane dans notre dans nos résultats. Mais la position englobante, ce sont des experts, donc 6 enseignants expérimentés qui sont impliqués dans un travail collectif. Comme tout à l'heure, on a des gens qui, dans les démarches d'investigation, mettent en place des fonctionnements qui sont plus ouverts vers la variabilité des situations. Contrairement à ces 6 expérimentés plutôt isolés, qui sont plutôt sur la fermeture, sur le cœur du métier, non pas qu'ils la revendiquent, mais parce qu'ils ont du mal à développer leurs compétences, n'étant pas confrontés à la vie d'autres collègues, à la vie de formateurs, à la vie de chercheurs. Alors qu'au contraire, les experts ont donc une position en haut de l'enveloppe des convenables. Hein. Je disais tout à l'heure se situer dans une enveloppe de convenables. Hein. Ils sont en haut de l'enveloppe. Ils ne sont pas toujours à l'optimum, vous pouvez voir, par rapport aux questionnements, par rapport aux problèmes. On voit que ces 6 experts, dans leur majorité, dans ce que l'on a pu observer, nous, dans leur séance de classe, sont plutôt fermés. C'est eux qui dirigent. Hein. Ils ne prennent pas en compte la vie des élèves. C'est peut-être un tort, mais on ne les a vus qu'une fois. C'est le choix dans cette séance-là. Par contre, ils vont, c'est peut-être leur choix, du coup laisser beaucoup plus de place à la prise en compte de la diversité des élèves, à l'argumentation. Hein. Donc c'est comme ça que l'on essaye d'encadrer les enseignants en leur disant, d'informer les enseignants en tout cas, en leur disant, ben voilà, on peut vous procurer un modèle, on peut vous procurer un appui, un repérage pour situer vos choix professionnels. Ces résultats, on les retrouve dans d'autres recherches. Une recherche qui se passe, c'est au niveau européen, mais ici, on parle plutôt de nos collègues allemands. C'est des ateliers de travail fondé sur le débat et sur l'investigation. Les enseignants, avec des formateurs et avec des chercheurs, ont mis en place une série d'ateliers tout au long de l'année autour de questions professionnelles précises et des questions qui rassemblent l'intérêt de tous les participants. Et je pense que c'est un critère extrêmement important pour l'efficacité. On le retrouve dans toutes les recherches. On a plusieurs établissements. C'est des entretiens, c'est de l'analyse de documents de classe, c'est des questionnaires de satisfaction des enseignants. Qu'est-ce qu'on remarque ? Les enseignants apprécient énormément ce type d'atelier. Pourquoi ils apprécient ce type d'atelier ? Parce que ça encadre leurs échanges. Ça permet de rechercher collectivement des moyens pour surmonter les difficultés professionnelles. Et on s'aperçoit en analysant leurs documents de classe, et on a ici un indicateur, le changement des pratiques, que ces pratiques ont évolué entre le début et la fin des ateliers. Par ce travail collectif, autour d'une espèce de démarche d'investigation entre les enseignants, les formateurs et les chercheurs. Même chose, on est cette fois-ci aux Pays-Bas. C'est 7 enseignants du second degré. On va les observer dans les classes, on analyse le matériel de classe. Là, on essaye, les enseignants, les formateurs et les chercheurs étayent les enseignants dans le développement de démarches d'investigation et de mise en place d'une évaluation formative. On se rencontre plusieurs fois dans l'année sur ces questions-là. Les enseignants conçoivent des séances. Il y en a un qui les teste, l'autre qui observe. On regarde la vidéo. On en discute. Le suivant essaye d'améliorer le processus. On le filme, et le troisième, etc. Hein? On observe qu'effectivement, les enseignants sont arrivés à concevoir des outils de guidage et ils les ont mis en place, et que les élèves sont devenus capables d'auto-évaluer leur production. Tout à l'heure, on avait un effet uniquement sur les enseignants. Là, on a un effet aussi sur les élèves. On a la même chose, on revient en Allemagne, avec le programme Sinus, différents établissements qui travaillent avec des enseignants, entre enseignants, formateurs et chercheurs, toujours le même processus, qui échangent entre eux. On est en Allemagne, c'est au niveau régional. Chez nous, ce serait au niveau national. Hein. Ils mettent en ligne des supports de cours, des programmations, des activités autour de problèmes didactiques très spécifiques. Michel, si on veut faire une question. Voilà. On observe. Là aussi, des effets à grande échelle sur les élèves. Tout ça pour dire qu'on avance, hein, vers dans notre dispositif-là, on avance vers un dispositif qui peut être efficace pour avoir des effets sur les pratiques enseignantes et sur les élèves. On a la même chose dans d'autres recherches. Vous regarderez. Je termine pour dire, pour pointer donc les points essentiels. Donc l'idée que dans le travail collectif, le développement professionnel se situe sur un continuum de transformation des conceptualisations et des stratégies d'enseignement. Ce continuum va de pratiques centrées sur les contenus et l'enseignant vers des pratiques ouvertes vers la variabilité, vers les apprentissages, mais que ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que l'expert va jouer sur la totalité des continuums. Le tout, c'est qu'il le fasse de manière consciente et adaptée. Et je pense que c'est un des objectifs d'Eléa que d'aider à ce positionnement. Jouer sur toutes les dimensions sans en oublier aucune, savoir reconnaître ce qui est convenable sans toujours être à l'optimum, et du coup se dire qu'est-ce qui n'est pas convenable. On a vraisemblablement, on était hier assez dans le conseil scientifique, il y avait un certain nombre de philosophes. Je crois qu'on a quelque chose à faire autour de la déontologie du travail enseignant. On a peut-être quelque chose à faire ensemble autour de reconnaître ce qui est convenable et du coup non convenable dans nos situations d'enseignement. Voilà. Et ce sera efficace si on est centré sur des problèmes professionnels spécifiques. Et manifestement, ce que l'on fait dans l'ELEA, si on conduit ce travail à la manière d'une démarche d'investigation, c'est-à-dire qu'ensemble, enseignants, formateurs, chercheurs, personnel du pilotage, on cherche à résoudre des problèmes professionnels. Voilà, je vous propose donc de vérifier un petit peu ces éléments dans les différents LEA. Merci.